aussi un peu de style. Le premier grand sujet, c'est, comme vous savez bien, c'est la Shemitah. C'est-à-dire, c'est l'année sabbatique. Plus précisément, l'année sabbatique et le Yovel. Ils sont évidemment liés. Alors, la Torah, elle dit qu'il y a une notion de Shabbat de la terre. De la même manière qu'il y a un Shabbat des jours, qui est un Shabbat, ça veut dire qu'il y a un jour Shabbat qui est pour Hachem, jour pour Hachem, il y a aussi un moment où la terre est pour Hachem. Alors, évidemment, ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est dans la structure, c'est très proche. De la même manière que le Shabbat, notre Shabbat à nous, il arrive en septième position. Il y a 6 jours de travail et le septième jour, c'est jour pour Hachem. Pour la terre, c'est aussi 6 années où on travaille la terre, où on peut travailler la terre pour soi-même. Et la septième année, la terre, le Shabbat, c'est un Shabbat pour Hachem. Alors, le Shabbat pour Hachem, dans la terre, par rapport à la terre, c'est quelque chose qui vient nous enseigner qu'on n'est pas propriétaire de la terre. Et on va voir plus loin dans le texte que du coup, on ne peut pas vendre une terre. On peut pas la vendre au sens de la vente de quelque chose, c'est-à-dire que j'étais propriétaire et j'ai permis à quelqu'un d'autre de devenir propriétaire à ma place. Quand vous vendez un livre, vous étiez propriétaire du livre, vous l'avez vendu, il y a un nouveau propriétaire. Ça, avec la terre, c'est pas possible parce qu'au départ, on n'est pas propriétaire. Et donc, on ne peut pas vendre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On parle tout le temps dans la Torah, dans la Gemara, de quelqu'un qui vend un terrain. Alors, on ne vend pas un terrain. On vend un certain nombre de récoltes qu'on peut faire sur ce terrain-là. Le tout tourne autour de cette idée que nous ne sommes pas propriétaires, c'est-à-dire nous ne pouvons pas nous conduire comme propriétaires par rapport à cette terre. On aura même, on va voir dans le détail, mais on aura même une expression étrange où Hachem va dire, vous êtes Gerim Vetoshavim, il m'a dit. Vous êtes étranger et résident avec moi sur la terre. L'expression qu'Abraham Avinu a utilisée pour dire qu'il voulait bien être Ger Vetoshav avec Ephron et les gens là-bas. J'ai bien joué le rôle de, etc. Là-bas, c'est, je vais jouer le rôle alors que je suis vraiment le propriétaire. Et ici, ce qu'Hachem nous dit, vous n'êtes pas propriétaire. Le propriétaire, c'est moi. Alors, en général, Hachem ne dit pas lourdement, il dit pas lourdement le fait que c'est lui le balabait. Mais on va voir qu'il y a une occurrence où il va le dire très clairement. Quelqu'un qui veut entrer? Bon. Avec grand plaisir, mais voilà. Merci. Merci de me faire remarquer parce que je ne regarde pas assez souvent. Bonsoir. Alors évidemment, tout le monde connaît la question que question donc classique, c'est que le texte de Parshat Behar, il commence par Idaber Hashem el Moshe, Behar Sinai, les morts. Hashem parle à Moshe au Sinai. Mais bon, pourquoi tout à coup on nous rapporte qu'il a parlé au Sinaï? On a l'impression que ce qu'il va nous dire là, ça il l'a dit au Sinaï. Et donc la tentation, ce serait de dire, ben, ça a été dit au Sinaï, mais les autres choses n'ont pas été dites au Sinaï. Alors ça n'ira pas jusqu'à dire, les autres choses n'ont pas été dites au Sinaï, parce qu'on sait bien qu'on a donné la Torah au Sinaï. Mais on va dire, en réponse à la fameuse question Ma'inyan Shemitah et Tselar Sinai, qu'est-ce que le sujet Shemitah a à voir avec le Sinaï? Regardez Rashi. Ma'inyan Shemitah et Tselar Sinai, va le kolamitzvot ne'emru mi Sinaï. D'accord? Birkei Avot commence Moshe Kibel Torah mi Sinaï. C'est toute la Torah qu'on a reçue au Sinaï. Alors, pourquoi ici on nous dit qu'Hachem a parlé au Sinaï? Alors, on va dire comme ça. Ça vient nous enseigner la chose suivante. Ma Shmita Nehemra Klalotea Vedikdukea mi Sinaï Avkulan Nehemru Klaloteen Vedikdukeen mi Sinaï Kar Shnuya Betorat Kohanim. C'est-à-dire, Rashi cite ici un Torah de Kohanim, donc un Chazal, et il l'explique. Il dit, Venireli, c'est intéressant, il dit pas, c'est ça le pshat, il dit, il me semble que le pshat. L'humilité de Rashi, il me semble, Shekar Pirusha. Le fils de l'homme a dit nous, mitat karkaot shenishnit be'arvot Moab, le Mishneh Torah. Étant donné que dans le Sefer Dvarim, qui raconte ce qui s'est passé dans les tribulations des Bnei Israël dans les 40 ans de promenade dans le désert, alors dans le Sefer Dvarim, il y a énormément de mitzvot qui sont répétées. Répétées puisque toutes les mitzvot ont été dites au Sinaï et elles sont répétées dans le Sefer Dvarim. Alors, jusque-là, on pouvait penser au Sinaï, Akadosh Baruch Hu a donné les grandes lignes, les klalim, et durant les 40 ans, on a eu le temps pour que Moshe nous explicite tous les détails de chacune des mitzvot. Donc on pourrait penser que ça s'est passé comme ça, un peu comme si, un peu comme les 10 commandements. On a reçu les Aseret HaDibrot, c'est toute la Torah, Aseret HaDibrot. On peut penser, voilà, on a reçu les règles générales, la liste, voilà, le Sefer HaMitzvot, la Rambam, là, faire un mitzvot, on a reçu au Sinaï. Et maintenant, le détail, ce que le chinour fait, etc., le détail, on l'a reçu au fur et à mesure des années, des 40 ans où on était dans le désert. Le problème, c'est que la Shemitah, elle n'est pas répétée dans cette Sefer Dvarim. Par conséquent, on est obligé de dire que au Sinaï, on a reçu la mitzvah de la Shemitah, mais on a reçu cette mitzvah et tous les détails de cette mitzvah, tout ça a été donné au Sinaï. Et donc le limoud de cela, c'est que de la même manière que tous les détails ont été donnés pour la mitzvah de Shemitah au Sinaï, de la même manière, tous les détails ont été donnés pour toutes les mitzvot. Pour les 613 mitzvot au Sinaï, on a reçu non seulement les règles générales, formulation générale, mais aussi tous les détails des mitzvot au Sinaï. Ah, et pourquoi on a répété? Parce que C'est pédagogique, c'était nécessaire. Alors, bien entendu, il vient une question qui est pourquoi est-ce que la Shemitah n'a pas été répétée? Puisqu'on a répété toutes les autres mitzvot avec tout le détail, mais celle-là aussi, on aurait pu tout répéter. À ça, je ne connais pas la réponse. Je ne sais pas pourquoi il y a des mitzvot, ce n'est pas la seule, mais pourquoi il y a des mitzvot qu'on a répétées et des mitzvot qui n'ont pas été répétées. Mais le limoud qu'on apprend ici, c'est qu'au Sinaï, on nous a donné le détail aussi, qu'on n'aurait pas su. C'est ça que Rashi dit. De la même manière que la mitzvah de Shemitah, elle a été donnée, elle, klalotea ou pratotea, kulan, toutes, nemru mi Sinaï, ou ba'akatuv ve limed kan, al kol dibur, שנדבר למשה מסיני, היו כולן קללותיהם ודקדוקיהם, וחזרו ונשנו בערבות מואב. וזה היה רפטה, כן, אבל אני לא יודע למה. למה זה היה, אנחנו יכולים להבין שאנחנו רפט, כי זה לור, וכי אנחנו צריכים לרפטה כדי להבין. Voilà comment Rashi explique la situation. Alors, le pasouk dit, on parle au Sinaï, le pasouk dit, Daber el Bnei Israël, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, parle au Bnei Israël, et à Marta Alehem, et tu leur diras, Kitavou el Haaretz, Asher ani noten lachem, quand vous arriverez dans le pays que je vous donne, veshavta haaretz shabbat lachem. La terre va devoir faire un shabbat pour Hachem. C'est-à-dire, sheshanim tizra sadecha veshanim tizmor karmecha. Pendant 6 ans, tu vas semer et tu vas tailler ta vigne et tu récolteras. Bashana et la 7e année, Shabbat Shabbaton Yela Aretz, ce sera un Shabbat pour la terre, Shabbat Lachem, comment ça se traduira? Satra lotizra, Vecharmecha lotizmo. Donc, tu ne n'ensemenceras pas et tu ne tailleras pas la vigne. Tu ne vas pas non plus récolter de façon comme un paysan récolte. Tu ne vas pas ni moissonner ni vendanger. La 7e année. Parce que ça sera Shnat Shabbaton Yé la Aretz. Et ça sera un Shabbat à Aretz. Lachem le Ochla. Le char, ou la avdecha, la matecha, sircha, sircha, toshamcha, garimimach, bemtecha, pour ton animal, aya, sherbeatsecha. Yekol tvuata lechol. Donc, tu pourras manger. Va pouvoir manger ce qui va pousser tout seul dans les champs. Il y a des choses qui poussent parce qu'elles ont poussé pendant 6 ans, continuent de pousser un peu. Là, tu pourras en manger, mais tu ne pourras pas amener ton camion et récolter pour aller le vendre. Et personne, les gens vont pouvoir venir. Ici, il y a une notion qui s'appelle Kedushat Shvit, c'est-à-dire la Kedusha qu'il y a sur les pérotes de Shvi'it, sur les fruits de Shvi'it. D'accord? Il y a une différence par rapport à Shabbat ordinaire. C'est la différence est la suivante. Le Shabbat de la terre, on n'a pas le droit de semer ni de tailler. Mais on n'a pas le droit. Alors maintenant, plus tard, on va nous dire, mais tu n'auras pas le droit de récolter. Alors, en vérité, les fruits des arbres qui ont été, disons, qui ont commencé à bourgeonner, etc., la sixième année et qui sont, et que je vais cueillir dans la septième année, ceux-là, j'ai le droit de les manger. Parce qu'ils sont le produit que la terre a produit pendant la sixième année. Et à l'inverse, quand dans la huitième année, il va y avoir des fruits aux arbres qui ont poussé durant la septième année, je ne pourrais pas les récolter industriellement, je pourrais en manger, mais pas plus, bien que je sois dans la huitième année. Bon, ça veut dire que ce dîn-là, c'est pas le dîn de, c'est pas un dîn de, un issour melacha. C'est pas un interdit de travail de la terre. C'est un interdit de me comporter comme un propriétaire de la terre. Je suis pas le balabaït de la terre. C'est ça qu'on me dit. Alors, est-ce que je peux pas faire travailler la terre? Et je ne peux pas bénéficier d'un travail de la terre qui s'est fait durant la septième année, même si je la cueillette, elle a lieu dans la huitième année. Par contre, je peux manger, je peux cueillir, même industriellement, les fruits de la sixième année. C'est un dîn de Kedusha de Shvit, c'est un autre dîn en fait. Et à part ça, dans le verset Vav, marqué Vaïta Shabbat Aharetz Lachem le Ochla. C'est un Shabbat, et ce que la terre va produire, ce sera pour être mangé. Mais il n'y a pas une mitzvah de manger les pérotes de la Shemitah. C'est pas la même chose. Les korbanot. Les korbanot, il y a une mitzvah de les manger. Il y a même une mitzvah de les manger dans un certain laps de temps, dans un endroit bien précis, avec qu'est-ce qui se passe s'il en reste, notar, etc. Il n'y a pas ça du tout. Si tu veux pas manger les fruits de pendant l'année, les fruits qui sont produits dans la septième année, tu n'as pas envie de les manger, tu manges pas. Il n'y a aucune obligation de manger. Marquer le ochla, c'est si tu veux, tu peux en manger, mais c'est un peu compliqué parce qu'on a l'impression que ça sonne comme une mitzvah tassé, mais c'est pas une mitzvah tassé. Mais en réalité, à ce sujet-là, il y a une marloquette Rambam et Ramban. Ramban dit que c'est une mitzvah. Il y a une mitzvah de manger. Mais qu'est-ce que c'est? Quelle mitzvah il y a? C'est sûr que la Torah, elle dit pas, tu dois manger tous les jours de la septième année, tu dois manger trois fruits, et de légumes, non, enfin, trois fruits, quoi, comme ils disent. Donc, il n'y a aucune mitzvah de ce genre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut manger? Ça ressemble un peu à la matzah durant tous les jours de Pessah, sauf le soir. C'est marqué, tu mangeras à Ratab. Mangera les matzot, mais il n'y a pas de mitzvah de manger les matzot. Si quelqu'un veut passer tout ce temps-là sans manger les matzot, il transgresse rien du tout. Il n'y a pas de mitzvah de manger. C'est un peu compliqué parce que, d'après le Gaon, on dit que il n'y a aucune obligation, mais si tu veux manger du pain, quoi, alors tu ne peux pas manger le chametz, parce qu'il y a un issur chametz. Et quand tu manges de la matzah, d'après le Gaon, tu fais une mitzvah. C'est une drôle de mitzvah. C'est pas une mitzvah qui s'impose. J'ai pas eu l'obligation de le faire. Qu'est-ce que c'est que le mot mitzvah, c'est un tzivoui, ça veut dire c'est un ordre. Quelle est la dimension de tzivoui là-dedans? C'est un peu compliqué à dire. Bon, on va pas entrer là-dedans. En tout cas, c'est ça qui est très important. Alors, on va regarder le Rashi sur ces versets. Rashi dit sur le Shavta Haaretz Shabbat Lachem. Qu'est-ce que c'est un Shabbat Lachem? Un Shabbat pour Hachem. Rachid dit, c'est le Shem Hashem. C'est un Shabbat qui fait pour Hashem exactement comme c'est dit dans Shabbat Bereshit. Alors, comme il est dit ici que la paracha, elle a été dite au Sinaï, alors Rabbi Avraham Ibn Ezra, il dit, Ein mukdam mukhar batora. Donc, il n'y a pas d'ordre dans les parshiot de la Torah. Le zoa paracha kodem vaikra, cette paracha, elle a été dite avant vaikra. Elle est écrite ici, quasiment à la fin du Sefer vaikra, mais elle a été dite, dans se faire Shemot, en fait. Mais quand la parashat Shem Acharav, qui a dit Bour Be'ar Sinai, Ve'ata Karat Abrit, Aktuva Be'parasha, Ve'le Amishpatim, Ve'iskira Be'makomazel, Chaber, Tnai Haaretz, Ve'kasher Amar, Ala Arayot, Ki Bavuram, Takia Haaretz Otam, Kéna beparshat im bechukotai al shabtot haaretz, et donc, c'est la même chose, si vous ne le respectez pas, la Torah va vous vomir. Ça va être dit dans bechukotai, mais qui est la suite de Bahar. C'est ce que dit Ibn Ezra. Alors, la Torah, elle continue. Elle dit, après ce qu'on a lu, dans le verset Chet, 8, Vesafarta lecha sheva shabtot sheva permim. Tu compteras 7 septaines d'années, oui. C'est-à-dire 7 fois 7 ans. Ayulecha yemei sheva shabtot hashanim shana. Ça va donner 7 fois 7, 49 ans. Et à ce moment-là, après ces 49 ans, ve'avarta shofar trois bachodesh hashvi'i be asor lachodesh biyom kippourim. Ta'aviru shofar b'chol artzechem. Et le Yom Kippour de la 50e année, on sonnera du shofar partout dans le pays. Et cette année-là, shana, on va sanctifier, donc on va singulariser cette 50e année. Vous kratem dror et vous publierez dror, dror, disons, libération. Tous les habitants vont être libérés. Ça veut dire tous les esclaves vont être libérés dans cette 50e année. Elle s'appelle Yovel. On va voir pourquoi elle s'appelle Yovel. Yovel ti elachem. Veshavtem ish el achuzato. Et chacun retrouvera son territoire, enfin son terrain patrimonial. Et chacun retrouvera sa famille, les esclaves, les gens qui ont été vendus, etc. Yovel hi shnata chamishim shana. C'est un yovel, cette 50e année. Lotisraou, Lotitsuru et Donc, vous n'aurez pas non plus le droit de semer, de, etc. Yovel Kodesh Minasade, Tuvota. Vous pouvez manger, il pousse tout seul, comme toujours. Yovel Azot, Ish El Achuzoto. Chacun retrouvera sa portion de terre. De quoi on parle? On parle, les Bnei Israël, quand ils sont entrés en Eretz Israël, ils ont eu pendant 7 ans, ils ont fait la guerre pour conquérir la terre. Ensuite, pendant 7 ans, on a partagé la terre entre les différentes tribus. Et à ce moment-là, on a commencé à semer, etc. Donc, quand la Torah dit, quand vous arriverez en Eretz Israël, la terre, elle fera Shabbat. Et si tu dis qu'on a parlé de cela au Sinaï, le Sinaï jusqu'à l'entrée, c'est 40 ans, plus 14 ans de conquête et partage, plus 6 ans, et pour que la 7e année, on puisse faire Mita. Donc, c'est dit 13 à l'avance. D'accord? Cette mitzvah de Shemitah. Et donc, et par la suite, le Yovel, c'est encore plus long. Alors, regardons un peu ce que c'est que cette histoire de Yovel. Vayu lecha yemei sheva, etc., c'est 49 ans. Rashi dit, Magid lecha, ça te dit que bien que tu n'aies pas fait les Shemitot, tu feras quand même le Yovel au bout de 49 ans. Tu vas compter 4 fois 40. C'est-à-dire qu'en fait, même si on ne fait pas les Shemitot, c'est pas les années sabbatiques, tu les pratiques pas, néanmoins, le Yovel, tu dois le faire. Bon, alors, évidemment, on a ce problème des 49, 50. Voilà, la Torah, elle nous explique la table de multiplication de 7. Alors, le 7, c'est très clair. C'est, bon, tout le monde sait, le Maharal, il explique que dans le monde, chaque chose a, en quelque sorte, 6 dimensions. Parce que nous, on appelle 3 dimensions, c'est parce qu'on a des chiffres négatifs. Mais si on n'a pas de chiffre négatif, il faut 6 dimensions, plus et le septième, c'est le centre, pour le maral. Donc, c'est la totalité, c'est ça le 7. C'est pour ça que le chiffre 7 a cette importance, en réalité. Et maintenant, le 50, c'est quelque chose d'assez particulier. Le 50, il a quelque chose d'unique. On sait, on le sait de tout ce qu'on a dit au sujet de la sortie d'Égypte. Les Bnei Israël étaient au 49e degré d'impureté s'ils avaient touché le 50. Alors, il y a le 50 en impureté, il y a le 50 dans la Kedusha. Ce 50, le 50, c'est un domaine qui appartient entièrement à Hachem. C'est pour ça qu'Hachem ne nous a pas laissé tomber dans le 50e. 49, si vous voulez, c'est l'œuvre des humains. Mais 50, c'est un point particulier qui appartient que à Hachem, si on peut parler comme ça. C'est pour ça que c'est ce 50e jour, là, qui correspond au don de la Torah, mais qui correspond ici aussi au Yovel, qui fait que ce Yovel-là, on peut se demander c'est quoi ce mot Yovel d'abord. Alors avant de rencontrer Yovel, il y a le problème de Dror. Kratem Dror. Rashi dit que Dror, Ukratem Dror Lavadim, c'est-à-dire vous publierez que c'est la liberté pour les esclaves. Ben Nirtza, Ben Shelo, Kalulo, Sheshanim, Mishenim Kar. C'est-à-dire, même celui qui n'a pas voulu sortir au bout, l'évêque d'Ivry, qui n'a pas voulu sortir au bout de 7 ans, et qui a dit, j'aime mon maître, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, je veux rester. Alors on lui avait percé le lobe de l'oreille. Et dans la Torah, dans la Parashat Mishpatim, c'est marqué, Va'avadon le'olam. Et il sera esclave pour toujours. Mais en vérité, quand arrive le Yovel, même lui, il est viré. C'est-à-dire, même lui, il est libre. Et de même, si quelqu'un a été vendu pour, comme toujours, il est vendu pour 6 ans, la 7e année va sortir. Mais disons que la 4e année du temps pour lequel il était vendu arrive le Yovel. Il sort aussi avant terme. Donc tous ces gens-là vont être libérés. Amar Rav Yehuda, Mahu Lashon de Dror. Rav Yehuda demande ça, quelle est l'étymologie du mot Dror. Alors il dit que Medayer be Dayara, c'est Dayer, ça veut dire habiter. C'est-à-dire Shedar bechol makom she'urotze. Comment on va se traduire la libération de l'esclave qui peut aller habiter où il veut? Et Eno birshut acherim, il n'appartient plus à qui que ce soit. Donc, dor à cause de Dayar, dor. Ça, c'est ce que dit Rashi. Rabbi Avraham Ibn Ezra, il dit un peu différemment, enfin, beaucoup différemment. Il dit, Dror, Yodua, Sheu, Kmo, Chofshi. On sait que ça veut dire libre. Comme on le voit au Kedror, là-off, off, il dit, il y a un oiseau qu'on appelle Dror, Tzipor Dror. Lui, il dit que c'est un off katan, c'est un petit oiseau, Menagen, Kesheu, Birchuto. Quand il est libre, il chante. Ve'im hu birshut Adam, et si l'homme le capture, lo yochal ad sheyamut. Il se laisse mourir. Il mange pas et il se laisse mourir. Ça, c'est dror. Pour lui, dror, ça veut dire libre. Ramban, il a encore une autre lecture. Alors ensuite, il y a le mot qui fait problème, dont on voudrait savoir qu'il me dit, c'est Yovel. Yovel. Alors je reviens dans Rashi. Rashi dit, Shanazot Mouvdelet, Mishar Shanim, cette année-là, elle est différente des autres années, elle a un nom à part. Les autres années, elles n'ont pas de nom. C'est pas comme les Chinois, il y a l'année du chien, l'année du coq, etc. Les années, elles se numérotent éventuellement par rapport au Yovel. Elle est spéciale parce que elle a un nom. Nekivat Shem la Levada. Elle a un nom, elle seule a un nom. Ou Mashma, quel est son nom? Yovel, Shma. Et d'où vient ce mot Yovel? Il vient à cause de Tkiat Shofar. Parce que cette année, elle commence par une sonnerie de Shofar, comme on a vu, Yom Kippour. Pour cette raison, elle s'appelle Yovel. Yovel, c'est en rapport avec le Shofar. Alors, Ibn Ezra, Il explique. Yovel lui dit que Yovel, c'est Shiloh, c'est renvoyé. L'année du renvoi des esclaves. Le Chazal Amrouch et Pirouch Yovel, Chazal disent que Yovel, ça veut dire Kéves. Ça veut dire agneau. C'est un agneau. Ve'araya, Shofarot, Ayovlim, la preuve, c'est que le shofar avec lequel on sonne à Yom Kippour, au Yovel de Yom Kippour, à Yom Kippour du Yovel, c'est qu'on sonne avec quelque chose qui s'appelle un shofar. Et le shofar, son idée, c'est que le shofar, on sait que le shofar, en général, c'est une corne de bélier. Et le bélier, c'est le kéves, c'est l'agneau, donc la famille du bélier. Donc c'est ça le lien avec chauffard. Chauffard, c'est bélier, bélier, agneau, et agneau. Et le Rambam, il y en a qui disent qu'en arabe, l'agneau, ça se dit quelque chose comme Yovel. Mais lui, il n'est pas d'accord. Hein. Lui, il dit que ça veut dire Shiloh. Bon, vous voyez. Et le Ramban, lui aussi, de nouveau, il discute beaucoup sur cette histoire. Il n'est pas d'accord avec Ibn Ezra. Il dit d'abord, personne ne dit que les shofarot, comme ça. Dans la Mishnah, à Rosh Hashanah, tous les shofarot sont kasher, toutes les cornes sont kasher. Mais pourquoi on sonne toujours avec du bélier? À cause de la Kélat Yitzhak. Bon, puisque le thème central de Rosh Hashanah, c'est la Akedah. Donc, pour cette raison, on sonne avec quelque chose qui a à voir avec la Akedah, puisque le bélier, c'est l'animal que Abraham Avinu a substitué à Yitzhak. Il n'a pas tué Yitzhak, il a vu un bélier, il a fait la Shrita, il a fait un korban du bélier qu'il a vu là. Et donc, à Rosh Hashanah, il y a une raison particulière, bien que d'autres cornes soient aussi cachères pour en faire un chauffard, mais on prend celle-là parce que, à cause de l'Akedah. Mais le Ramban dit que, à Yom Kippour, c'est plus vraisemblable qu'on ait pris des cornes de bouquetin ou je sais pas, comme ça. Donc, ça n'a rien à voir avec le chauffard. Donc, pour ça, il n'est pas du tout d'accord avec l'explication chauffard de Ibn Ezra, et donc, d'une certaine manière, bon, peut-être de Rashi aussi, mais. Alors lui dit, lui, il dit sur Dror, le Ramban, il dit Dror, c'est la chaîne d'or, génération, d'or en l'air, d'or bas. Et Yovel, Shiachouv, El Ha Yovel, Achersham, Shorachav, Vit Yelachem. Yovel, c'est l'endroit où les gens habitent d'habitude. Comme on dit que la terre n'était Dieu vous là. On donne ça. Bon, c'est chez lui, quoi, quelque part. Donc, ça, c'est le premier sujet, le premier grand sujet. de Parshat Berah, c'est la Shemitah et le Yovel. C'est-à-dire, en fait, ça change complètement notre rapport avec le sol, avec la terre d'Israël, d'accord? Où dans cette terre, Hachem dit, bon ben, vous êtes des étrangers, et vous résidez avec moi sur cette terre, mais c'est tout, vous n'êtes pas les propriétaires. Vous avez le, c'est écrit dans le passouk numéro Tavgimel 23. Haaretz lo timaker litzmitut. La terre ne sera jamais vendue définitivement. Ki li haaretz, la terre est à moi, dit Hachem. Ki gerim vetoshavim atem imadi. Vous êtes des étrangers résidents avec moi. Mais vous n'êtes pas des baalim, donc ne vous conduisez pas en propriétaire sur cette terre. D'une certaine manière étranger à la sur cette terre. Bon. Ouais, je vous donnerai la terre, mais qu'est-ce que ça veut dire donner la terre? Je vous donne la gestion de la terre. Vous avez le droit d'être, vous êtes étranger, donc ne vous conduisez pas en propriétaire. C'est à vous, mais ne vous conduisez pas en propriétaire. C'est un peu contradictoire, mais c'est fondamental pour que l'homme ne se prenne pas pour le maître du monde, quoi, finalement. Et ensuite, évidemment, que le problème qui va se poser, c'est on a partagé la terre, mais il y a des gens qui vont vendre leur terre parce qu'ils n'ont pas envie de la cultiver ou parce qu'ils veulent de l'argent. Alors, même quand on vend la terre, comme je vous ai dit, on ne vend pas la terre, on vend des récoltes. Et maintenant, quand quelqu'un a été obligé de vendre son champ patrimonial, alors il a un droit de rachat, une priorité de rachat. Celui qui a acheté va être obligé de lui revendre dans certaines circonstances. Donc c'est vraiment, tu achètes, ben alors bien sûr, s'il a investi, il va récupérer son argent, mais il ne peut pas refuser à quelqu'un de récupérer son bien. Et s'il ne le récupère pas, alors d'abord un proche peut le récupérer pour lui. Et si personne ne le fait pour lui, alors on ira jusqu'au Yovel et au Yovel, il le recevra gratuitement. Donc le deuxième sujet, c'est justement ce problème de la vente. Mais regardez le passouk Yud-Dalet, au début de Chéni, il dit, lorsque vous vendrez à votre prochain ou... Ou quand vous achèterez. Altonu ish et achi. Ne vous trompez pas les uns les autres. Ne vous roulez pas les uns les autres. Il y a un lave. L'opération s'appelle onaa. Il y a une onaa d'argent et une onaa de parole. Alors, regardez la structure. La paracha de la vente, elle commence par lorsque vous vendez, ne roulez pas votre l'acheteur ou le vendeur, peu importe. Vous allez vendre de mispar shanim après l'Yovel. D'accord? Vous vendez un certain nombre de récoltes. Et tout au pasuk yudzaïn de nouveau, velotonu ished amito, et ne trompez pas, il ne faut pas vous tromper les uns les autres. tu craindras ton Dieu, Hachem, parce que moi, Hachem, je suis votre Dieu, ça veut dire que le dîn de Honaa, c'est un dîn particulier qui dit que si il existe un pour un produit, le cours de l'argent, le cours des pommes, le cours de cuivre, etc. Alors, si quelqu'un vous vend une tonne de cuivre pour 1000, et le cours, en vérité, le cours, il est 1000, c'est plus qu'un sixième de plus que le cours. Alors, disons que le cours est, je ne sais pas, 800, d'accord? Et il vous le vend à 1000. Vous ne saviez pas quel était vraiment le cours, etc. Mais il y avait un cours, il y a un cours. Il vend à 1000. Quand vous apprenez qu'il vous l'a vendu plus d'un sixième au-dessus du cours, vous pouvez aller chez lui et lui dire j'annule la vente, on annule. Si il a vendu au-dessus du prix, mais moins qu'un sixième au-dessus du prix, vous pouvez lui dire, écoute, on continue, la vente elle est bonne, mais rends-moi mon argent. Donne-moi la différence. Le cours était, qu'est-ce que j'ai dit, 800? Ben quoi, bon. Donne-moi la différence entre ce que je t'ai payé et le vrai coût. C'est un dîn de Hona, c'est un dîn de Raita. Et puis, il y a une notion d'Honaat Dvarim. Une Honaa dans les paroles, c'est dire à quelqu'un, parler à quelqu'un et le blesser en parole. Le blesser ou lui donner un mauvais conseil. Lui donner un conseil, voilà, c'est le moment de vendre. Et c'est pas, en fait, vous lui donnez un mauvais conseil, c'est le moment où il ne fallait pas vendre. Si on fait ça, on transgresse l'interdit de Honaa. On ne peut pas revenir en arrière, on a transgressé un Honaat Dvarim, ça s'appelle. Donc, il faut faire très attention quand on parle aux gens de ne pas les blesser parce qu'on est très vite dans la Honaat Dvarim. Alors, a priori, le premier terme, la première occurrence là, de l'Altonui Shtarim, c'est pour la Honaa d'argent. Et le deuxième, l'Altonui Shetamito, c'est pour la Honaa de Dvarim, de parole. Alors, justement, sur le deuxième, en parole, tu lui donnes un mauvais conseil, etc. Alors, Rashi dit, Vim Tomar, mi yodea im nitkavanti lera. Mais qui sait si, quand je lui ai donné le conseil, j'avais une mauvaise intention? Personne ne le sait. Ça ne se voit pas sous le bout de mon nez, obligatoirement. Pour ça qu'ici, là-dessus, c'est marqué, tu craindras ton Dieu. Ayodea marchevot, ou Yodea. Hachem qui connaît les pensées, lui, il sait. Le col d'Avar sur la lèvre, chaque fois que la chose, elle se fait à l'intérieur de chacun. Chez Makir, elle a mis, libo. Chaque fois que le seul qui sait c'est à quoi j'ai pensé, ben c'est moi. Alors toujours c'est marqué, fais attention, Yirat Shamaim, si tu crains pas Hachem, ça peut aller très mauvais pour toi. Et alors, si vous respectez ces lois-là, vous respectez la Shemitah, vous respectez ces dînes de Honaa, alors, Vasitem et Troukotaï, Vet Mishpatai, Tishmeru, Vasitemotam, Vishavtemana, Reslaveta. Alors, vous pourrez résider en sécurité sur la terre. Et à ce moment-là, tout ira bien, c'est-à-dire, la terre, elle donnera son fruit, vous allez manger et être rassasié, et vous serez en sécurité. Et alors, la question que les gens posent en général, le chitomrou, si vous dites, mais manochal bashana ashvit, qu'est-ce qu'on va manger la septième année si on n'a rien semé? On n'a pas semé, on n'a pas taillé la vigne, qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va... Hen, l'on isra velon elsa fait tout à nous. Et on n'a pas récolté vraiment. Alors, Hachem dit, vetsiviti et birchati. J'enverrai ma bracha, Nachem, bashana shishit. La sixième année, vous allez, la sixième année, elle va produire, ve'asa et atvoa lishlosh hashanim. La sixième année, elle va produire pour 3 ans. Pour la sept, pour la huit, pour la six, pardon, son année, la sept et la huit. La huitième année, vous aurez le droit de semer, etc. Et vous mangerez jusqu'à, y compris la huitième, vous allez manger de l'ancienne de la sixième année. Et la neuvième, vous allez manger de la nouvelle, c'est-à-dire ce que vous avez semé la huitième. Pardon? Oui, même l'année de la Shemitah, si t'as pas, au début de l'année, tu n'as pas semé, ben, les choses qui poussent dans l'année, tu n'y auras rien. Elle est?
Elle est visible, elle est là pour la septième. Donc elle ne se trouve pas.
Elle a? Elle... Ah, oui, non, c'est-à-dire que la question, elle est théorique. C'est pas que on a vu qu'on n'avait pas à manger. Dans la théorie, on a compris que si on sème pas, on n'aura rien. Hachem dit, mais la sixième, elle va produire pour la septième et la huitième aussi. Et alors, le troisième sujet, donc le deuxième sujet, c'est une certaine, premièrement, une honnêteté, un problème de pas tricher, pas tromper l'autre. Pourquoi c'est grave de tromper l'autre? À part le fait que tu trompes l'autre, mais c'est révélateur de ce que tu n'as pas confiance en Hachem. Parce que si tu penses que pour avoir à manger ou pour avoir ce que tu veux, tu dois tromper l'autre, c'est que tu penses qu'Hachem ne te donnera pas ce que tu as ce dont tu as besoin. Donc c'est un manque d'émouna. Donc en cela, c'est grave. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on entend ici, c'est que c'est la qualité des relations à l'intérieur du clan d'Israël qui va faire qu'on sera en sécurité ou pas. C'est-à-dire que si la qualité, si allô? Je vous en prie, c'est pas ça. Oui, bon, Rachel. La qualité, donc, des relations à l'intérieur, c'est elle qui va déterminer les relations avec l'extérieur. C'est ça qui est important. Ishavtem lavetach, quand est-ce que vous serez en sécurité? Vous serez en sécurité quand, dans vos relations intérieures, vous trompez les uns les autres, vous allez aider, parce que vient le troisième point. Le troisième point, c'est le problème du ribbit, le problème du prêt à intérêt. Alors, la Torah, elle présente l'interdit du prêt à intérêt, C'est très important de voir que dans le passouk, c'est présenté d'une manière bien précise. La Torah, elle n'a pas dit comme ça de but en blanc, vous n'avez pas le droit de prendre l'intérêt les uns sur les autres. Un passouk, c'est marqué qui amour ou machar ou bago si ton frère littéralement, il s'affaiblit, quoi. C'est-à-dire, tu as ton frère et économiquement, et ça ne marche pas. Il est en train de s'effondrer. Alors, la Torah, elle est toujours pour qu'on aide quelqu'un à ne pas tomber plutôt que de l'aider à se relever. C'est quand même toujours plus difficile d'aider quelqu'un à se relever plutôt que de l'aider à ne pas tomber. Alors, tu dois l'aider. Donc, Goalo, le libérateur, quelqu'un qui va libérer ton frère qui est pas en forme, quelqu'un va venir l'aider. Veish, Iloyelo Goel, si maintenant, alors, d'abord, premièrement, si quelqu'un est affaibli et qu'il est obligé de vendre, par exemple, sa terre, alors, il y a un goël, c'est-à-dire libérateur, c'est-à-dire un proche, qui a le droit de venir et de racheter, d'obliger l'acheteur du champ que l'autre a vendu sous la compte, parce qu'il était obligé, de le lui vendre. Et il y a un prix de vente standard. Donc, il est obligé de le vendre. Et donc, il peut le restituer à celui auquel il appartenait, ou en tout cas, il peut lui faire des conditions plus faciles, je ne sais pas. Et s'il n'a pas, si quelqu'un, il n'y a pas de proche qui a les moyens, ou qui peut, mais que lui, il a gagné à la loterie, il peut venir et dire, rends-moi ma terre, je te rembourse. Alors évidemment, il va lui rembourser en fonction des années dont il a déjà profité, etc. Ça, vous avez bien compris. Ben sinon, ça ira jusqu'au Yovel, et au Yovel, ça reviendra chez lui, comme on avait vu. Et la Torah, elle dit qu'il y a la même règle de possibilité de rachat quand on a vendu, quelqu'un avait une maison dans une ville qui est entourée de murailles. Alors, les villes qui sont entourées de murailles, elles ont un avantage sur celles qui n'ont pas de muraille. Donc, quelle est l'importance de cette muraille? L'idée, c'est que quand il n'y a pas de muraille, chacun doit se défendre. Tu as une maison, tu es obligé de prendre des mesures de sécurité pour te défendre, quoi, il faut. Et si les gens ont l'intelligence de comprendre au lieu que chacun se fasse sa petite muraille, il vaut mieux faire une grande muraille à laquelle tout le monde contribue. Donc, ils ont compris la notion de collectivité. La chose, l'importance, c'est la collectivité. Donc, une maison dans une ville où il y a une muraille, c'est-à-dire c'est une maison dont il avec des gens autour avec lesquels on a déjà une relation, c'est on est tous en train de construire ou d'entretenir la muraille. Donc on a une relation. Donc il y a quelque part, ça crée des relations et ça a une certaine valeur. Donc si quelqu'un est obligé de vendre sa maison dans une telle ville, la Torah l'a prévu, il y a une possibilité de rachat de la maison. Elle n'est pas aussi longue et aussi fondamentale enfin aussi généreuse que la possibilité de rachat dans les champs, etc. Mais il y a une année où on peut se rattraper. Donc, ici, après, on traite aussi des fameuses villes des Leviim. Comme vous savez, les Leviim n'ont pas reçu de territoire puisqu'ils sont requis d'être toujours disponibles pour le Beth Amikdash et pour enseigner. Et donc, il faut bien qu'ils habitent quelque part, donc on leur a donné des villes. Il y a 42 villes de Levim, Et ces villes d'élevés, elles jouent aussi le rôle de villes-refuges. C'est-à-dire, en plus de 6 villes-refuges, il y a aussi 42 villes d'élevés qui jouent le rôle de villes-refuges. Ça fait un réseau de villes-refuges sur cette petite terre d'Israël qui est impressionnant. On a l'impression que, quoi, il y a un tel nombre de gens qui tuent par inadvertance qu'on a besoin de 48 villes-refuges. C'est énorme, quoi. On n'a pas besoin de 48, il y en a 6, mais il y a des écriteaux partout. Ville refuge, partout pour que les gens ne perdent pas de temps, etc., qu'ils puissent aller se réfugier immédiatement dans une ville refuge. Et alors maintenant, le ribbit. En fait, il y a aussi le problème des gens qui sont obligés de se vendre comme esclaves. Là aussi, il y a une mitzvah de les racheter, le cas échéant. Surtout, ça dépend à qui ils ont été vendus. S'ils ont été vendus même comme esclaves chez les goyim, il y a une mitzvah de les racheter. Mais qu'est-ce qui se passe s'il n'y a personne qui les rachète, etc. Et puis ensuite, il y a ce que je vous ai dit, il y a le ribbit, le prêt à intérêt. Lui aussi, le prêt à intérêt, il est aussi présenté comme un prêt qui est fait à quelqu'un qui ne va pas bien. Quelqu'un qui a fait des mauvaises affaires, ou etc. Et donc, il a besoin d'être aidé. Alors, tu vas lui prêter de l'argent. Alors, la Torah, elle dit, quand tu lui prêtes de l'argent, ne lui prête pas avec intérêt. Et la Torah, elle est très dure, elle utilise un des verbes qui est utilisé pour qualifier le prêt à intérêt, c'est nocher. Nocher, ça veut dire mordre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu prêtes à quelqu'un, est dans la dèche, et tu lui prêtes 100. Et tu lui dis, quand tu me rembourseras 110. Où il va prendre les 10 pour rembourser? C'est comme si tu le prenais une livre de chair. Tu le mords. Qu'est-ce qu'il va te donner? Et là, on entend, c'est le marchand de Venise, hein, c'est Shakespeare et le marchand de Venise. C'est un livre de chair. Certains disent que Shakespeare, quand il a écrit ça pour les Lombards. Les grands banquiers, à ce moment-là, c'était des Lombards. Il n'a pas osé payer sur les Lombards. Il a payé sur les Juifs parce que ça peut se permettre. Mais les grands banquiers, c'était pas les Juifs. À ce moment-là, c'était les Lombards. Donc, la Torah, elle considère que prêter un intérêt, c'est mordre la personne. Alors, tu peux pas prêter à intérêt de l'argent, mais tu peux pas prêter à intérêt non plus de la nourriture ou des biens, des commodities, comme on dit. C'est-à-dire qu'en fait, si on va dans ce sens-là, et on va dans ce sens-là, normalement, une femme, elle peut pas emprunter une bouteille d'huile à la voisine en disant, je te rendrai une bouteille d'huile. Parce que peut-être demain, quand elle va lui rendre la bouteille, l'huile, elle vaudra plus. Et donc, elle lui rend la bouteille qu'elle a empruntée, elle valait 1 euro, elle lui rend une bouteille qui vaut 2 euros. C'est du ribbit. Alors, comment on fait? Il faut se donner les choses. Donne-moi une bouteille d'huile. Après, peut aussi t'en donner une autre. Mais c'est pas un remboursement. C'est pas, faut pas que ça apparaisse comme un prêt. Donc, il faut faire attention, à ne pas emprunter même quelque chose, parce que on va évaluer le prêt en termes d'argent. C'est vrai que j'ai emprunté 1 kilo et vendu 1 kilo. Et c'est vrai que j'ai emprunté, j'ai pas un kilo de cerise et j'ai vendu un kilo de cerise. Mais le problème, c'est qu'on le grand problème est que comment on va mesurer toutes ces choses-là? On va transformer ça en argent. Et du coup, en argent, si le cours a changé. Alors, c'est seulement s'il y a un cours. Par exemple, s'il n'y a pas de cours, c'est-à-dire que si vous achetez des asperges au tout début de la saison, le type, il peut vous le vendre comme il veut, il n'y a pas de cours encore. Le premier producteur, il est tout seul à vendre des asperges. Il a le droit de prendre le prix qu'il veut. Il n'y a pas, il y aura pas de, même pas d'ONAA. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cours. Seulement quand il y a un cours, ça veut dire que quand il y a suffisamment de marchandises sur le terrain, au marché, il s'établit un cours. Alors, par exemple, ça veut dire que si vous achetez un diamant, si vous achetez peut-être un diamant, il y a peut-être un cours, je ne sais pas, en fait, suivant le nombre de carats et peut-être la pureté, il y a peut-être un cours, je ne sais pas. Mais si vous achetez, un tableau, ben, il n'y a pas de cours. Donc, à la limite, même si vous savez, aujourd'hui on sait ces choses-là, même si vous savez que la dernière votre enchère, le tableau en question, il a été vendu à 100 000 et le vendeur, il propose de vous le vendre à 300 000. Il n'y a rien à redire. Si vous l'achetez, vous ne pourrez pas ensuite dire, ah, mais je n'avais pas regardé, mais la dernière vente aux enchères, ça valait 100 000. Donc, tu peux faire un petit bénéfice, mais pas tu vas pas tripler le truc. Il n'y a pas de cours. Donc, tu sais quand tu achètes, il n'y a pas de cours. Donc, c'est à toi à juger. Parce qu'il y a peut-être des gens qui vont l'acheter à 300 parce qu'ils pensent que dans un an, ils vont pouvoir le vendre à 500. Ça, c'est les problèmes. Et donc, par exemple, supposez que A est riche et B ne l'est pas. Et A, il va à la banque, on lui prête. Il veut emprunter 100 000. Il va prêter 100 000. Ah, c'est un milliardaire, on lui prête. Et on lui prête avec un intérêt. Voilà, c'est 10%. Et maintenant, B, il dit à A, écoute, moi, si je demande 100 000, ils me les donneront pas. Mais prête-moi les 100 000 que tu as empruntés à la banque. Et c'est moi qui paierai même directement à la banque les 10%. On n'a pas le droit. Parce que la banque, elle ne connaît que A. Et après, il y a une affaire entre A et B avec P à intérêt. Donc, on peut pas. C'est dommage parce que des fois, ça pourrait être utile. Mais même ça, on n'a pas la possibilité. Ça, ce serait. Si on a quelqu'un qui veut bien vous. Parce que c'est quand même lui qui prend la responsabilité par rapport à la banque. La banque, elle ne connaît que lui. Donc, si B paye pas les intérêts, à la banque, elle va se retourner contre A. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Justement, même si c'est B qui paye les intérêts, ça ne marche pas parce que la banque, elle ne le connaît pas. Elle se fiche de savoir de quel compte les intérêts arrivent sur le compte de A. Voilà, c'est tout. Maintenant, qui les a payés, c'est l'importance. Hein, c'est du REBIT. La banque, elle prend un REBIT, c'est disons que c'est une banque goy. Elle a le droit de prendre du REBIT. Donc, A, quand il a emprunté, il avait le droit d'emprunter avec REBIT. Et il prend, en vérité, il prend pas de REBIT pour B. Il dit, je te prête 100 000 et tu me rends 100 000. Mais moi, je dois payer les intérêts. Alors, je veux bien te faire la courte échelle là, pour que tu aies 600 000. Mais c'est toi qui payes les intérêts. Ça ne marche pas. C'est du REBIT. Donc ça, c'est le troisième grand sujet, énorme sujet, qu'il fait que les relations, elles sont complètement différentes. Alors les gens disent toujours, mais oui, mais on tourne l'intérêt, l'interdit du ribbit avec un shtariska. Ça veut dire que les prêts dans la Torah, c'est ça que je vous ai lu comme ça, les prêts, c'est pour aider quelqu'un qui en a besoin pour manger. Et si maintenant, il dit, ah ben, moi j'ai envie de faire du business, mais j'ai pas de capital de départ, mais est-ce que tu peux me prêter? Prête-moi 100 000. Comment? Ben voilà, alors, comment on l'a dit. Alors, comment on peut faire Béhéter? Béhéter, il est comme ça. Il est, on a fait une, ça s'appelle Shtar Iska. C'est un document. Iska, ça veut dire une affaire. Ça veut dire, dans la situation que j'ai décrite avec cet emprunt-là. Alors, enlevons cette situation, on envoie, on enlève. A prête à B, je te prête, tu veux 100 000, je te prête 100 000. Sans intérêt. Bon. Mais, c'est comme ça. Toi, tu prends les 100 000 pour faire du business. C'est pas normal que tu m'empruntes 100 000 sans intérêt. Toi, tu fais ton bénéfice et quand tu auras fait de mes 100 000, tu auras fait 200 000, tu me rendras mes 100 000. Ça va, c'est quand même pas poussé. Alors, quand c'est pas parce que quelqu'un en a besoin pour manger, etc. Quand c'est pour faire les affaires, et on est obligé de trouver une solution parce que si on n'y a pas d'emprunt, et le business, il marche pas. Il y a plein d'emprunts dans tous les domaines. Donc, qu'est-ce qu'on fait? A, il prête à B. Et B, il monte une société dans laquelle il met ce capital qu'il a emprunté, les 100 000. Mais A, il met aussi, disons aussi 100 000 à lui. Donc, la société, c'est une société avec 200 000 de capital. Et ils font du business. Et par exemple, CB, il fait toute l'administration, c'est lui qui gère, etc. Il fait tout le boulot. Et ensuite, on fait un partage des bénéfices. Et on va partager les bénéfices de telle sorte que la part des bénéfices de A, ce soit équivalente à ce qu'il aurait eu comme ribbit, s'il avait placé cet argent à la banque, par exemple. Mais c'est pas un prêt, c'est pas un intérêt pour le prêt. C'est présenté comme la société, une répartition des. On a le droit de répartir les bénéfices comme on veut. OK? D'accord? Donc, A, il va prendre, disons, s'il y avait 10%, il va prendre 10 000 les 10%, il va prendre 10 000 dans le bénéfice de la boîte qui avait un capital de 200 000. On espère qu'ils en savent, quoi. Qu'ils puissent prendre 10 000. Et l'autre, ben, il prendra peut-être seulement 5 000, ou je sais pas, les premières années jusqu'à ce que, et du coup, il va pouvoir peut-être rembourser une partie de, OK, j'ai 5 000, j'ai pas besoin de plus que 2 500. Je te rends déjà 2 500. Sur les 100 000 que je t'ai emprunté. Et en fait, par exemple, toutes les banques israéliennes, a priori, elles ont toutes un isquet. Parce que comment elles peuvent vous donner un. Si tu mets ton argent dans une banque israélienne, elle te donne du ribbit. C'est un sourd. Donc, dans les petites lettres, c'est marqué que avec ton argent, elle le place, elle fait un business avec toi. Et c'est comme ça qu'elle te rémunère. Et à la limite, à l'inverse aussi. Quand c'est toi qui empruntes, alors c'est la même chose. Voilà ce que on apprend dans le parachat de Béhar. Voilà. Bonsoir.